RFI, 11h à Bakou, 8h à Paris.
RFI matin.
Pierre Boudias, l'avenir du climat en question à Bakou.
L'Azerbaïdjan accueille à partir d'aujourd'hui la COP29. La question du financement devrait être au cœur des débats. Donald Trump nomme Tom Homan en charge de l'immigration, un partisan de la ligne dure qui fait partie des premiers noms de la future équipe du président élu. Le républicain a 75 jours pour compléter son administration. Nouvelle frappe russe sur le sud de l'Ukraine. Au moins 10 personnes ont perdu la vie dans ces bombardements sur Mykolaïv et Zaporijja. Nous retrouvons notre correspondant à Kiev dans ce journal. Et puis un récit d'exil à retrouver en fin d'édition, celui que trace Sara Lenka dans son dernier album, un opus dédié aux ancêtres féminines de la chanteuse d'origine juive algérienne.
Les portes de la COP29 s'ouvrent en ce moment à Bakou.
Près de 50 000 participants venus de 198 États sont attendus pour ce 29e sommet sur le climat qui se déroule donc en Azerbaïdjan. Plus de 100 chefs d'État seront présents pour mieux lutter contre le réchauffement planétaire et ses conséquences, alors que les températures mondiales battent cette année encore tous les records et que les catastrophes climatiques s'enchaînent. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
La COP29 est d'ores et déjà qualifiée de COP de la finance.
Mais c'est le principal objectif de cette COP29, se mettre d'accord sur un nouveau montant d'aide aux pays en développement pour financer à la fois leur transition énergétique, leur adaptation face au changement climatique et enfin financer les réparations après des catastrophes qui n'ont pu être évitées. Jusqu'à présent, les pays riches avaient promis une aide de 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025, promesse qui n'a pas été tenue dans les temps, ce qui a beaucoup crispé les relations nord-sud. Pas de quoi entamer les négociations avec beaucoup de sérénité, donc, pour déterminer ce nouvel objectif financier pour 2025-2030. Surtout, les besoins ont explosé. Ils se chiffrent désormais en milliers de milliards de dollars chaque année. Les pays du Nord, responsables historiques de la crise climatique, ont bien du mal à sortir le portefeuille. Union européenne et États-Unis veulent que d'autres pays contribuent, Chine et pays du Golfe notamment, qui sont aujourd'hui eux aussi de grands émetteurs de gaz à effet de serre et qui ont les moyens de payer. Nouveaux donateurs, taxes sur les gros pollueurs et les ultra-riches, plus grande participation des pays, des banques, des entreprises. Plusieurs pistes sont évoquées pour rassembler l'argent nécessaire. On verra si la volonté politique suit. Et à ce propos, Antonio Guterres a publié une petite déclaration sur les réseaux sociaux ce week-end. Les dirigeants du monde doivent venir à Bakou avec une ambition à la hauteur de l'urgence. Ensemble, poussons-les à agir, a dit le secrétaire général de l'ONU.
Alors un autre enjeu, ce sont les nouveaux plans climat des pays qui doivent être publiés d'ici février 2025.
Dans 3 mois à peine, les États se sont engagés à publier toutes les mesures qu'ils comptent mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cela signifie réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030, alors qu'au contraire, elles continuent à augmenter avec un nouveau record encore cette année. Les nouveaux plans climat devront donc être très ambitieux avec au moins un début de sortie des énergies fossiles. Et puis on attend enfin la finalisation de l'article 6, le seul article de l'accord de Paris, toujours en négociation depuis presque 10 ans. Les pays où les entreprises polluantes échangent leurs émissions de gaz à effet de serre contre des projets verts, souvent dans les pays du Sud. L'idée est de mettre de l'ordre dans ce marché carbone pour éviter le greenwashing.
Enjeu et force en présence de ce sommet avec Jeanne Richard. Merci, un sommet pour le climat que nous suivrons bien sûr sur les antennes de RFI. À noter que de nombreux chefs d'État ont d'ores et déjà annoncé leur absence. Joe Biden, Xi Jinping ou Emmanuel Macron ne feront pas le déplacement. Un sommet sur lequel planeront les craintes d'un nouveau retrait des États-Unis de l'accord de Paris, une décision qu'avait prise Donald Trump lors de son premier passage à la Maison-Blanche. Le républicain qui a entamé un marathon de plus de 2 mois pour le passage de relais avec l'administration de Joe Biden. Il sera d'ailleurs reçu par son prédécesseur cette semaine pour évoquer cette transition qui doit se terminer le 20 janvier prochain. Loubna Anaki.
C'est historiquement l'une des périodes les plus compliquées d'une élection présidentielle américaine, la transition. Donald Trump a 75 jours pour constituer l'équipe qui lui permettra de gouverner ces 4 prochaines années. En tout, il y a près de 4000 postes à pourvoir. 1200 d'entre eux doivent être validés par le Sénat. Et si cette transition est trop lente, cela retardera la mise en application de l'agenda politique de Donald Trump. On sait que le nouveau président multiplie les entretiens dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride pour choisir ceux qui seront à la tête de son administration à la Maison-Blanche. Certains noms flottent, notamment ceux de Robert Kennedy Jr. ou encore encore Elon Musk. Ces prochaines semaines, le président élu devrait également recevoir les briefings des services de renseignement afin de préparer sa prise de pouvoir. Ce mercredi, il est aussi attendu par Joe Biden dans le bureau ovale, une tradition honorée par les présidents américains, sauf par Donald Trump qui n'avait pas reçu Joe Biden après sa défaite en 2020. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et le président élu a dévoilé ce matin deux nouveaux noms. D'abord celui de Tom Homan, chargé de la question migratoire, un partisan de la ligne dure à l'origine de la loi sur la séparation des enfants de migrants de leurs parents lors du premier mandat de Donald Trump. C'est Elise Stefanik qui représentera les États-Unis auprès de l'ONU. La députée républicaine de New York assure avoir accepté le poste proposé par Donald Trump et se dit réellement honorée. Le républicain qui demande ce matin au Sénat de valider ses futures nominations sans passer par un vote. Les sénateurs sont censés donner leur approbation sur les personnalités choisies après de 1200 poste clé. Le futur président américain qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine la semaine dernière, information du Washington Post selon qui Donald Trump aurait demandé au président russe de ne pas intensifier les combats en Ukraine dans l'attente de négociations de paix. Dans la nuit, ce sont pourtant au moins 10 Ukrainiens qui ont perdu la vie dans des frappes sur Zaporijja et Mykolaïv dans le sud du pays. Emmanuel Chasse, vous êtes notre correspondante à Kiev. Bonjour, la Russie semble intensifier ses frappes en plein cœur des villes ukrainiennes ces dernières semaines. Alors quel est le but recherché par ces bombardements?
Alors, en plus d'endommager, par exemple, les sources d'énergie pour priver les Ukrainiens d'électricité, notamment, la Russie vise aussi des hôpitaux, des immeubles résidentiels dans un but de subjugation des Ukrainiens en rendant leur ville tout simplement invivable, comme on le voit, vous l'avez dit, avec ses frappes sur Zaporijja et Mykolaïv cette nuit. Alors, pour vous donner une idée, la ville de Zaporijja, c'est 700 000 habitants avant-guerre. Elle a de nouveau été touchée par une bombe planante cette nuit. Ça a fait des dizaines de blessés et au moins un mort, le tout dans une région qui est partiellement occupée par les Russes et qui a été bombardé plus de 350 fois dans les dernières 24 heures. Alors, ces frappes, effectivement, si elles ne sont pas nouvelles, elles se sont multipliées ces dernières semaines, surtout avec des drones qui ont aussi pour but d'épuiser la défense antiaérienne ukrainienne en prévision de futures frappes de missiles qui, eux, sont plus dévastateurs et plus difficiles à intercepter. Mais on voit la Russie aussi utiliser de plus en plus ces bombes planantes, peu coûteuses, à forte charge explosive et qui font beaucoup de dégâts sur les infrastructures, donc notamment civiles.
Emmanuel Chasse, merci. Vous étiez en direct avec nous depuis Kiev. La Russie assure de son côté avoir déjoué une tentative ukrainienne de détourner un hélicoptère militaire. Selon Moscou, les services de renseignement auraient été contactés par Kiev pour livrer l'appareil directement sur le territoire ukrainien.
Au Japon, le Premier ministre sortant va-t-il sauver son poste?
Le Parlement issu des élections d'octobre vote en ce moment la confiance au gouvernement. L'exécutif de Shigeru Ishiba devrait être maintenu malgré sa lourde défaite au scrutin qu'il avait lui-même appelé, mais en l'absence de majorité absolue, c'est un véritable jeu d'équilibriste que le sortant va devoir se prêter. Guibourg Delamotte est professeur à l'Institut national des langues et des civilisations orientales.
La situation va être assez difficile pour lui parce que entre le Kometo et le Parti libéral-démocrate, ils sont à 215 sièges, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Donc, il est en difficulté. Soit il trouve un autre partenaire avec qui former une coalition, mais c'est très peu probable. En fait, comme les partis d'opposition sentent que le Parti libéral-démocrate est en situation de faiblesse, ils veulent tirer avantage de la situation et donc personne ne veut se mettre avec le PLD et partager leur sort. Donc ce que peut faire M. Ishiba pour le moment, c'est négocier des accords au coup par coup, ce qui va rendre très difficile un maintien à long terme au pouvoir parce que évidemment, ça va supposer énormément de négociations, donc beaucoup de pertes de temps. Donc la situation est effectivement difficile. Je pense que M. Ishiba va réussir à se maintenir au pouvoir malgré tout une année.
Guibourg Delamotte au micro d'Eike Schmidt. Nouveau Premier ministre cette fois pour Haïti. L'homme d'affaires Alix Didier, fils aimé, a été nommé ces dernières heures par le Conseil présidentiel de transition après le limogeage de son prédécesseur. En poste depuis seulement 5 mois, Gary Conil était en froid avec l'organe exécutif sur les nominations des responsables des ministères de la Justice, de la Défense ou encore de la Santé. Ministres et chefs d'État du monde arabe et musulman sont eux attendus à Riyad aujourd'hui, réunion conjointe de la Ligue arabe et de l'Organisation de coopération islamique dédiée à la question des offensives israéliennes à Gaza et au Liban. Hier, les autorités de Beyrouth ont annoncé un bilan de 41 morts sur la seule journée de dimanche après des frappes qui ont notamment visé un village au nord de la capitale. Un responsable du Hezbollah venu rendre visite à des déplacés a été notamment ciblé.
RFI 8h10 à Paris, la France où l'avenir du secteur industriel inquiète le gouvernement.
Vendredi, Marc Ferracci s'inquiétait déjà de la fermeture à venir de nombreux sites dans le pays. Les craintes du ministre de l'Industrie partagées par la secrétaire générale de la CGT. Dans une tribune publiée hier, Sophie Binet met en garde contre le début d'une violente saignée industrielle. 150 000 emplois pourraient à terme disparaître, selon la responsable syndicale. Alors que deux usines Michelin fermeront prochainement, l'avenir du secteur automobile est au cœur des inquiétudes. Anne Verdaguer.
C'est une catastrophe annoncée qui contredit les déclarations tonitruantes du chef de l'État sur la réindustrialisation de la France. Le secteur automobile en premier est touché de plein fouet. La concurrence chinoise, le recul des ventes et la lenteur de l'électrification ont mis la filière à terre. L'inflation a aussi joué un rôle. L'économiste Marc Toiti.
Les entreprises ont dû faire face à une augmentation des coûts de production avec une baisse du pouvoir d'achat, donc ce qui cassait la consommation, plus les taux d'intérêt qui ont augmenté, plus maintenant la crise politique qui est en train de s'installer. Donc voilà, il y a une conjonction d'évolution qui fait que les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui créer des emplois, et même c'est l'inverse, parce qu'elles détruisent des emplois, elles licencient.
Les défaillances d'entreprises en France ont atteint un record depuis 12 mois, 66 000 en tout, dont beaucoup de petites entreprises qui disparaissent, ce qui a des conséquences fortes sur l'emploi. L'État doit de son côté gérer un budget à la dérive et ne peut plus venir à la rescousse. Marc Toiti.
Déjà, on avait une pression fiscale qui est la plus élevée du monde, ça allait mal, pas de croissance, ou quasiment pas, ça allait mal. Alors maintenant, qu'on va augmenter encore les impôts, qu'on a une croissance qui est en train de s'effondrer et qu'on est au bord de la récession, ça ne peut pas aller mieux.
Pour le moment, l'exécutif fait le dos rond et annonce beaucoup de moyens et des solutions dignes pour les salariés de l'industrie licenciés.
Et c'est dans ce contexte que les députés sont appelés à voter sur le volet recettes du budget 2025. Aujourd'hui, un texte largement amendé par les oppositions, notamment de gauche, et qui pourrait être rejeté avant de prendre la direction du Sénat. Le président français sera en tribune pour le match France-Israël jeudi prochain. Une rencontre placée sous haute surveillance après les incidents en marge de la rencontre du Maccabi Tel Aviv jeudi dernier à Amsterdam. Côté autorité française, on le martèle, Aurélien Delacroix, pas question de céder aux intimidations, d'où la présence d'Emmanuel Macron.
Il sera à Saint-Denis pour soutenir l'équipe de France, mais pas seulement. La présence d'Emmanuel Macron au Stade de France jeudi veut envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam, indique l'Élysée. Un signe également de la volonté des autorités françaises de montrer que la rencontre se déroulera dans des conditions de sécurité optimales, la présence du chef de l'État dans les travées en étant le symbole. Car du côté d'Israël, l'inquiétude est forte. Les autorités ont appelé les ressortissants de l'État hébreu à éviter totalement de se rendre à des rencontres sportives et événements culturels en Europe cette semaine et surtout au match France-Israël. La préfecture de police de Paris a pourtant fortement renforcé son dispositif. 4000 policiers et gendarmes et 1600 agents de sécurité seront déployés au Stade de France et ses alentours. L'unité d'élite de la police, le RAID, est elle chargée de la sécurité de l'équipe d'Israël en collaboration avec les autorités de l'État hébreu. Pression énorme donc pour éviter tout incident et laisser le sport en dehors des considérations politiques. Le Stade de France devrait toutefois sonner creux. Seules 20 000 places ont été vendues sur les 80 000 disponibles.
Les précisions d'Aurélien Devernois.
On termine en musique, Pierre.
Avec la chanteuse Sarah Lenka, disque après disque, elle trace depuis une quinzaine d'années une voix part dans le paysage musical français. Elle vient de sortir un nouvel album intitulé Isha, ce qui signifie femme en hébreu. Ses chansons, toutes écrites en anglais, racontent son histoire familiale marquée par l'exil et le déracinement. Edmond Sadaka a écouté ce disque pour nous.
Dancing in the dark, she heard her name.
Sarah Lenka rend hommage aux femmes depuis plusieurs années. Elle l'avait déjà fait en chantant Billie Holiday, puis en revisitant le répertoire d'une autre grande dame de la communauté afro-américaine, Bessie Smith. Pour ce nouvel album, la chanteuse, qui est d'origine juive algérienne, s'est replongée dans son histoire familiale, une histoire souvent effacée par l'exil. Chacun des morceaux du disque s'inspire de l'histoire de l'une de ses ancêtres au féminin, qu'elle vienne d'Algérie, d'Espagne ou d'Argentine. Sarah Lenka.
Plus je comprenais que chaque chanson allait être un voyage un peu à travers la vie d'une de ces femmes. C'était femme qui avait beaucoup de courage et surtout on a peu parlé d'elle après et je me suis dit en fait l'exil coupe la transmission qu'elles auraient pu nous donner.
You drive her crazy.
Sarah Lenka, qui a fait ses premiers pas dans le métier en tant que chanteuse de jazz, s'éloigne de plus en plus de ce registre pour se diriger vers une folk très épurée. Sur cet album, la guitare, le mandol, les chœurs et les percussions retranscrivent les danses, les rythmes et les coutumes du passé.
Oh,
Sarah Lenka. L'album s'appelle Isha et il est en rayon depuis le 8 novembre.
Et c'était Edmond Sadaka qui nous le présentait. Merci Pierre Boudias. 8h15 à Paris, l'information africaine dans un quart d'heure. Avant cela, on va largement revenir sur la COP29 qui démarre aujourd'hui à Bakou. 2 semaines de négociations sur le climat, la transition énergétique, la réduction des énergies fossiles. Et dans le cadre de cette COP, c'est l'occasion ce matin de revenir sur les pressions et les menaces qui visent les défenseurs de l'environnement. C'est notre question d'environnement du jour. À la une de la presse internationale ce lundi, Frédéric Couteau, Trump tout puissant.
Donald Trump va aborder son second mandat doté des pleins pouvoirs, relève le Figaro, l'exécutif à la Maison Blanche, le législatif au Congrès avec une majorité acquise au Sénat et quasi assurée à la Chambre des représentants, sans oublier la Cour suprême au fort penchant conservateur, dont 3 juges nommés par lui. Ajoutons à cela un degré de préparation bien supérieur à 2016 grâce à un réseau étendu de fidèles et une stratégie longuement mûrie pour venir à bout des résistances de l'État profond. Il Figaro de s'interroger, que va faire le 47e président de sa toute-puissance, la marque du populisme qu'il revendique est de tenir ses promesses, même quand elles paraissent irréalisables ou aux limites de la légalité. En entrant dans le bureau ovale le 20 janvier, Donald Trump signera une série de décrets contre l'immigration, les théories du genre, les contraintes environnementales. Les fonctionnaires fédéraux peuvent s'attendre à des purges, les sans-papiers à des expulsions de masse. Européens, Ukrainiens ou Taïwanais peuvent redouter la pensée magique qui prétend faire disparaître les problèmes d'un simple deal entre hommes forts.
Ce que Trump peut et ne peut pas faire dès le premier jour, pointe pour sa part le Wall Street Journal.
Donald Trump s'est engagé à mettre en œuvre le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine dès son entrée en fonction, mais cela prendra du temps. Il a également annoncé qu'il mettrait un terme à l'octroi de la citoyenneté américaine aux enfants nés d'une personne entrée illégalement aux États-Unis, mais cette mesure sera probablement contestée sur le plan juridique. Par ailleurs, pointe le Wall Street Journal, Trump a déclaré qu'il signerait un décret retirant à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Là, ce serait immédiat. Son entourage affirme que le décret a d'ores et déjà été rédigé et qu'il sera prêt à être signé par Trump dès le premier jour de son entrée en fonction. Pour ce qui est de la politique étrangère, poursuit le journal, Trump a promis de mettre fin aux conflits dans le monde, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, avant qu'il ne prenne ses fonctions là. Le Wall Street Journal émet de sérieux doutes. Trump a peut-être réussi à inciter l'Ukraine, qui a perdu certes du terrain, à s'asseoir à la table des négociations. Mais la Russie de Poutine ainsi que le Hamas et Israël n'ont montré aucun signe de leur volonté de mettre un terme au combat dans leurs conflits respectifs.
Ce qui est sûr, relève le New York Times, c'est que sur le plan intérieur, on peut s'attendre à une vague de représailles.
Oui, Donald Trump ne croit pas au pardon et à l'oubli, affirme l'un de ses proches. Il est du genre œil pour œil, dent pour dent, et il est furieux de ce qui lui est arrivé au cours des 4 dernières années. La liste des personnes ou des organisations qu'il a désignées pour faire l'objet d'une enquête au cours de sa campagne est longue, plus d'une centaine. Il a promis notamment de nommer un vrai procureur spécial pour s'en prendre à Joe Biden et à sa famille. Et il a déclaré que Kamala Harris devait être poursuivie pour ses actions en matière de politique frontalière. Il a aussi partagé des messages demandant que l'ancien président Obama et Liz Cheney, sa plus éminente critique républicaine, soient jugés par des tribunaux militaires. Trump a également demandé, pointe encore le New York Times, que soient poursuivis les juges et procureurs qui l'accusent d'être responsable des affaires pénales et civiles le concernant.
Commentaire du Washington Post, tout cela était prévisible, mais cela n'en est pas moins effrayant.
Oui, le Post qui s'attarde sur le cas de Jack Smith, le procureur spécial du département de la justice, c'est lui qui, celui qui en juin dernier avait inculpé Trump au pénal, notamment pour sa conduite lors de l'attaque du Capitole. L'idée qu'il puisse y avoir une base pour des accusations criminelles contre Smith ou son équipe est ridicule, affirme le Washington Post. Il n'y a aucune preuve que Smith se soit écarté des lignes directrices du ministère de la Justice et encore moins qu'il ait violé la loi. De toute façon, conclut le journal, Trump n'aura pas l'occasion, comme il l'a annoncé, de le renvoyer dans les 2 secondes suivant son investiture, pour la bonne et simple raison que l'on s'attend à ce que Smith démissionne avant.
Frédéric Couteau, cette revue de presse internationale est à retrouver en ligne sur le site RFI.fr. La COP29 avec encore cette année de nombreux sujets sur la table des négociations. L'an dernier, à l'issue de la COP28, c'était à Dubaï, un appel à la transition avait été lancé pour une sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Mais il en sera encore question cette année, alors que de nombreux pays peinent à sortir des énergies fossiles. La Pologne, par exemple, qui reste le premier producteur de charbon en Europe, avec 3,5 millions de tonnes extraites chaque année. Alors que plus de la moitié de l'énergie consommée dans le pays provient encore du charbon. L'impact de cette énergie fossile sur la santé des habitants se fait sentir, comme l'a constaté notre correspondant Adrien Sarlat.
À peine le temps de refermer les portes que l'ascenseur de la mine nous propulse 320 mètres sous terre. Aujourd'hui, la mine de Gwydo, située dans la cité minière de Zabrze en Silésie, au sud-ouest de la Pologne, a été reconvertie en musée. C'est ici, dès son extraction, que le charbon a fait ses premières victimes. Jerzy Hopka est aujourd'hui à la tête du syndicat des mineurs polonais. Dans la mine où il travaille, il a vu sa santé et celle de ses collègues se dégrader au fil de sa carrière.
Le travail à la mine, c'est un travail très difficile et il comporte de nombreux risques pour la vie des mineurs. Les principaux sont la silicose et la perte d'audition.
Mais les effets du charbon se font sentir au-delà des régions minières. Le pneumologue Tadeusz Jelonka à Varsovie est spécialiste des questions de pollution. Il alerte sur le danger de la concentration de particules de charbon dans l'air qui menace la santé de la population. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution est à l'origine de près de 50 000 décès chaque année en Pologne. Le médecin regrette cependant que le problème reste ignoré par la grande majorité de la communauté médicale dans le pays.
Les connaissances sur les pollutions atmosphériques ne font pas partie de la formation des médecins. Donc ils passent à côté de l'information, ne sensibilisent pas leurs patients et la société n'a pas conscience du problème.
Le professeur salue néanmoins le travail des associations militantes comme Alarme Fumée. Depuis plusieurs années, elle attire l'attention des médias sur la nécessité d'une transition énergétique. Pour Piotr Shelgey, le porte-parole de l'association, le problème vient avant tout des chaudières à charbon individuelles. On en compte 2 millions dans le pays et elles brûlent chaque année deux fois plus de charbon que ce que produisent les mines polonaises.
Si c'est pour brûler du charbon d'Australie ou du Kazakhstan, ça n'a pas de sens. En fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il ne faut pas agir au niveau des mines, mais remplacer les chaudières à charbon, car elles sont trop nombreuses par rapport à nos capacités de production minière.
À elles seules, ces chaudières sont responsables de plus de 90% de la pollution atmosphérique totale dans le pays. Le gouvernement polonais s'est fixé pour objectif une sortie du charbon à l'horizon 2050.
L'attente d'une transition énergétique en Pologne. Au Portugal, le gouvernement a lancé une initiative pour œuvrer à cette transition. On en parle ce matin avec notre correspondante à Lisbonne, Marilyn Darcy. L'une de ces initiatives, c'est un titre ferroviaire très bon marché.
Le titre ferroviaire vert, ou en portugais passe vert, a été mis en circulation le 21 octobre au prix de 20 euros pour tous. Il donne accès à deux voyages par jour pendant un mois, exception faite des lignes rapides où circulent les trains appelés Alpha et les trains des périphéries de Lisbonne et Porto. Entre ces deux villes, un aller simple au tarif habituel coûte 26 euros. Le passe vert se révèle donc avantageux, comme le dit Adriana da Silva, rencontrée à la gare centrale de Lisbonne.
Nous sommes d'origine portugaise et du coup, pour aller visiter notre grand-mère, c'est plus intéressant vu que c'est en dehors de Lisbonne. On paiera 20 euros par mois et on peut voyager autant de fois qu'on veut, deux fois par jour. Dans les grandes lignes de train, on peut aller jusqu'à Porto, faire Porto-Lisbonne deux fois par jour. Oui, parce qu'on est à Lisbonne pour étudier, mais le week-end, c'est toujours bien de voir la famille, la mamie, voilà, on passe du temps avec elle.
Parmi les autres mesures, la gratuité pour les jeunes de moins de 23 ans pour les inciter à prendre davantage le train.
En fait, ce passe vert renforce et élargit un titre de transport ferroviaire qui existait déjà.
Oui, depuis 2023, il existait un titre équivalent, mais il coûtait 49 euros par mois et était plus limité. Il avait été créé par les socialistes écologistes du Parti Libre sous le gouvernement socialiste précédent. L'objectif du Parti Libre était de pouvoir le rendre intermodal, c'est-à-dire utilisable sur d'autres moyens de transport, le train ne circulant pas partout. Un peu comme le titre allemand, appelé Ticket D, qui vaut d'ailleurs lui aussi 49 euros par mois, mais qui a l'avantage d'être utilisable sur tous les moyens de transport. L'Allemagne pourrait ne pas le conserver, il est jugé trop coûteux par les opérateurs des transports. Au Portugal, le gouvernement a prévu une enveloppe de près de 19 millions d'euros pour compenser la CP, les chemins de fer portugais, pour le manque à gagner. Certains affirment que ce sera insuffisant.
Au total, Marilyn, il y a 13 mesures pour encourager la mobilité. Marilyn Darcy, qui était notre correspondante. Alors, au total, Marilyn, il y a 13 mesures pour encourager la mobilité ?
Outre le titre ferroviaire vert et celui gratuit pour les jeunes jusqu'à 23 ans, le gouvernement a pris une autre mesure emblématique, l'aide à l'achat de voitures électriques, une prime de 4000 euros en contrepartie de la destruction d'un véhicule traditionnel. Il prévoit aussi la création d'un fonds public de transport pour décarboner et développer l'usage du digital. Il prévoit aussi le développement des pistes cyclables et une prime à l'achat de vélos, aussi bien conventionnels et électriques. Le gouvernement a aussi prévu de soutenir le transport de marchandises en modernisant les plateformes de charge, par exemple. L'enveloppe globale prévue est de 115 millions d'euros jusqu'en 2025.
Marilyn Darcy, correspondante de RFI à Lisbonne. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre la COP29 sur le climat. Elle ouvre d'ailleurs en ce moment même ses portes à Bakou, en Azerbaïdjan. Stéphanie Schuller est en studio avec nous pour la question d'environnement ce matin. Bonjour.
Bonjour, Adrienne.
Alors, cette COP29 se tient en Azerbaïdjan, on le disait. Et ONG internationales et rapporteurs spéciaux de l'ONU ont multiplié ces dernières semaines les mises en garde. Pourquoi cela ?
Eh bien, parce que l'Azerbaïdjan est un pays autoritaire qui bafoue sciemment non seulement le droit international, mais aussi les droits de l'homme. Un exemple, Anar Mamadli, grand militant du climat, qui est emprisonné depuis fin avril, et le gouvernement a forcé son organisation Climate for Justice Initiative de fermer. Mais Anar Mamadli est loin d'être le seul Azerbaïdjanais à être réduit au silence, au fin fond d'une cellule. C'est ce que dénonce Marie Lawler, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme.
We've seen a lot of preemptive arrests.
Il y a eu beaucoup d'arrestations de défenseurs du climat et de journalistes. Pour l'Azerbaïdjan, la COP sert de prétexte pour étendre encore davantage la répression, alors que le pays réprime déjà toute forme de critique contre la politique du gouvernement.
En amont de la COP, les ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH ont appelé le régime azerbaïdjanais à libérer ses prisonniers. En vain.
Les défenseurs de l'environnement et du climat ne sont pas seulement menacés dans des pays autoritaires.
Non, en effet, Andréane, dans les démocraties aussi, ils et elles sont de plus en plus victimes de répression policière. Leurs actions sont criminalisées, de grandes multinationales, notamment du secteur des énergies fossiles, les traînent en justice. Dans certains pays d'Amérique latine, leurs familles sont menacées. Et l'an dernier, près de 300 défenseurs de l'environnement ont été assassinés à travers le monde. Et alors que disposer d'un environnement sain est un droit humain et que le fait de le défendre est garanti par le droit international, au sein même des COP de l'ONU, ce droit est de moins en moins garanti, s'inquiète Michel Forst, rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement.
On voit que le processus se dégrade. Sharm el-Sheikh en Égypte a été une COP difficile parce que beaucoup de défenseurs n'ont pas eu un visa. À Dubaï, l'an dernier, c'est un des pays dans lequel il n'y a pas de défenseurs. Pour une simple raison, c'est qu'ils sont soit en prison, soit à l'étranger, en exil. Et l'Azerbaïdjan, ça va être encore autre chose. Récemment, l'accord qui régit la sécurité entre le pays d'origine et Nations Unies a été dévoilé. Et on voit à quel point la parole est contrôlée, muselée. Il est interdit à Bakou de dire un mot de la situation des droits humains en Azerbaïdjan.
Alors Stéphanie, comment expliquer que les défenseurs soient traités de la sorte ?
Eh bien parce qu'ils dérangent les intérêts des entreprises des énergies fossiles et le narratif de certains dirigeants politiques. Mais comme le rappelait la semaine dernière la directrice générale de la Fédération internationale des droits de l'homme, je cite, « Les activistes du climat et de la biodiversité se battent pour notre futur. Les protéger est donc indispensable. »
Stéphanie Schuller pour la question d'environnement ce matin. Merci beaucoup. La COP29, on continue de vous en parler dans le prochain journal dans une minute, mais aussi avec notre invité Afrique du jour, Seni Nafo. Il est le porte-parole du groupe des négociateurs africains. Entretien avec Christophe Boisbouvier à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Vous restez avec nous. Le journal, c'est dans une petite minute.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens.
Juliette Garbrandt.
Dans beaucoup de pays européens, le charbon n'est qu'un lointain souvenir, mais certains ne peuvent pas encore s'en passer. Alors que la conférence sur le climat démarre à Bakou, sur fond de controverses autour de l'influence du secteur fossile, nous irons en Pologne, où l'exploitation du charbon affecte la santé des habitants.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.
Bonjour, c'est Tiken Diafakouli. Ce mercredi 13, je serai avec vous toute la journée sur RFI.
Le 13 novembre, Tiken Diafakouli est l'invité spécial de RFI.
Et le soir, je vous invite, vous les auditeurs, à mon concert.
À 19h41, ne manquez pas le concert du reggae-man panafricain en direct de la salle Playel à Paris.
Rastafari, African Revolution.
This is Africa.